Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Marianne durant la case.
Jean Leclanc, vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres depuis 1983, égyptologue de renom international. Comme directeur de la mission archéologique française de Saqqara pendant plusieurs années, vous avez très largement contribué à donner sens aux fameuses pyramides à textes et à ce qu'on appelle aussi les textes des pyramides qui sont à la base de la connaissance des fondements de la religion égyptienne. Les auditeurs de Canal Academy ont déjà eu le grand plaisir de vous entendre sur notre site, présenter votre parcours d'égyptologue ou bien évoquer la figure du génial Champollion ou encore présenter le travail d'édition colossal que représente le Dictionnaire de l'Antiquité paru l'an dernier au PUF, à peu près à la même époque, à l'automne 2005. Jean Leclanc, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, les éditions Gallimard éditent à nouveau, pour la seconde fois, les premiers volumes de la collection L'Univers des Formes, collection mythique, pourrait-on presque dire, dont 42 volumes ont été publiés entre 1960 et 1997. À l'origine de cette véritable bibliothèque de référence, il y a un homme, André Malraux, qui conçut cette remarquable et durable collection, selon sa propre expression, comme un musée sans mur du patrimoine artistique universel. Jean Leclanc, vous avez préfacé l'édition nouvelle du volume « Le temps des pyramides » qui vient de paraître à l'automne 2006. Le texte d'origine des auteurs est certes repris dans le corpus majeur, mais avec une mise en page aérée, des photographies en couleur. Alors, sous votre direction scientifique, est à nouveau publié le premier volume, le premier titre de la série qui a été consacrée à l'Égypte ancienne en 1978. Il y avait le temps des pyramides, l'empire des conquérants, l'Égypte du crépuscule, et aujourd'hui c'est le temps des pyramides qui est à nouveau publié. On imagine que la publication des autres titres de la série suivra. Est-ce prévu, Monsieur Leclanc ?
Oui, c'est prévu. Dès l'année prochaine, viendra le deuxième volume de cette série qui portait dans la collection de l'Univers des Formes en sous-titre Les Pharaons. C'était en effet en 1978 que m'avait été confiée la direction du premier volume. C'était une charge très prestigieuse, qu'André Malraux, ses collaborateurs, avaient bien voulu me confier, et trois volumes qui s'étaient succédés dans ces années-là. Le premier, le temps des pyramides, le second, l'Égypte des conquérants, et le troisième, consacré au dernier siècle, l'Égypte du crépuscule, qui était extrêmement neuf à cette époque-là, se sont trouvés assez rapidement épuisés. Mais la politique éditoriale des éditions Gallimard ne comportait pas les rééditions de ces volumes. Par conséquent, ils sont demeurés des ouvrages de référence constants, mais généralement difficiles d'accès, se trouvant seulement sur le marché d'occasion. Et par conséquent, lorsque, il y a deux ans, l'année dernière, les éditions Gallimard ont décidé de reprendre l'édition de la collection, elle a bien voulu faire appel à moi pour de nouveau diriger cette série et même plus généralement cette reprise de l'univers des formes. Par conséquent, c'était quelque chose qui s'imposait en quelque sorte au certes depuis sept ans, depuis la première édition, un certain nombre de découvertes ont été effectuées en Égypte, des découvertes certaines fortes qui ont beaucoup frappé le public. Mais enfin, si vous voulez, sur l'interprétation même de la civilisation égyptienne, et plus précisément sur l'analyse de son art, bien, il a semblé que ce qui avait été dit alors pouvait être de nouveau donné au public, à condition de le munir d'une préface.
Alors justement, vous avez écrit une préface pour donner au public les dernières avancées scientifiques faites par les archéologues et les chercheurs sur l'histoire de l'Égypte pharaonique.
Et de l'histoire de l'art.
Oui.
Car, chose extraordinaire, l'on connaît encore assez mal l'histoire de ces époques si reculées, d'autant plus que les Égyptiens, n'ayant pas du tout une conception historique telle que nous la concevons, nous autres modernes, ne nous ont pas du tout facilité le travail de cette sorte. Mais naturellement, sur la culture elle-même et sur les présupposés, les archétypes de pensée que supposent ces formes d'expression, alors là, il y a beaucoup à dire. Et chose étonnante, les historiens se sont intéressés, naturellement, des égyptologues à la base, parce qu'il faut connaître les textes, il faut comprendre cette civilisation, comme toute civilisation d'ailleurs, il faut connaître les écrits. Mais les Égyptiens s'exprimaient beaucoup plus que par l'écrit, s'exprimaient par les formes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et par conséquent, un propos comme l'univers des formes, à l'univers des formes, les Égyptiens répondaient « présent ». Pour d'autres civilisations, ça s'impose moins. Mais là, vraiment, on peut faire une analyse des formes, et chose étonnante, précisément, des histoires de l'art égyptien, il y en a très peu. Il y a des traités d'archéologie, il y a de très nombreux ouvrages sur l'archéologie égyptienne, mais sur l'art égyptien proprement dit, faire comprendre quelque chose qui correspond à des présupposés tellement différents des nôtres, alors cela, c'est quelque chose qui est une tâche majeure et finalement assez rare. Et c'est pourquoi je crois qu'un pareil ouvrage s'impose pour notre public contemporain.
Alors, le temps des pyramides avait été rédigé par une équipe internationale. À l'époque, Fernand de Bonneau avait signé le chapitre sur la préhistoire, Jean-Louis de Sénival, celui de la proto-histoire, Jean-Philippe Lauer, celui de l'architecture, Jean Vercouter, le bas-relief et la peinture, Cyril Aldred, le chapitre sur la statuaire, et Christiane de Roche-Noblecourt sur les arts appliqués, les arts de métamorphose. Cette équipe aujourd'hui a vu malheureusement certains de ses membres disparaître. Mais comme vous le faisiez remarquer, les textes de ces chercheurs restent quand même en grande partie utiles parce qu'ils abordent des formes et parce que aussi les recherches dans le domaine d'histoire de l'art ont peut-être moins avancé que d'autres recherches.
Alors il y a deux choses nouvelles tout de même. Il y a la bibliographie.
Alors ça
c'est
les
important parce
nouveaux.
Que comme ces ouvrages sont destinés à un public très large, certes, mais aussi aux égyptologues eux-mêmes et à l'enseignement de l'égyptologie et à l'enseignement de l'histoire de l'art égyptien, un soin tout en particulier a été apporté à rénover la bibliographie.
Complète, nouvelle, voilà. Dont le nouveau volume est agrémenté, également de cartes,
de plans aussi, de coupes
très très bien faits, qui permettent des restitutions des temples, pyramides et autres. Et puis, on l'a déjà dit, mais peut-être faut-il le redire, de photographies en
couleurs
qui sont particulièrement belles.
L'illustration est totalement neuve. Hein.
Voilà.
En effet, il y a eu entre-temps un fait nouveau. Mm-hmm. Il y a 2 ans, apparu en Italie, une édition populaire, en italien de l'ouvrage. C'est-à-dire, c'était la traduction des textes français. Mais je dois dire que n'était cité seulement que le nom de notre collègue, que je connais très bien, qui est une amie italienne, qui avait fait une nouvelle préface. Si bien que, à travers le public italien, mais à partir de là aussi dans le public international, tout cela a paru sous un seul nom, qui n'est pas du tout celui des auteurs. Je dois dire que nous avons été un peu froissés en France, de voir que tout cet apport que les savants français avaient fait, avec d'ailleurs en collaboration avec les savants égyptiens et avec les savants internationaux, mais enfin tout de même sous la responsabilité aux français, se trouvait totalement passé, mais laissé de côté. Mais naturellement, les Italiens avaient une très belle documentation de photographie. Inversement, nous autres, nos clichés d'il y a maintenant 3 décades, ces 3 décennies, nos clichés étaient en noir et blanc d'abord, la plupart, et étaient passés. Par conséquent, nous avons été trop heureux de récupérer une documentation photographique en couleur extrêmement précieuse, extrêmement vive, et qui correspond d'ailleurs exactement au plan photographique que nous avions rêvé il y a une 30aine d'années.
Alors, Jean Leclan, quelle est l'originalité de cette civilisation et de cet art égyptien ? Si on peut
la première
y répondre.
Chose qu'il faut savoir, et elle est fondamentale, c'est qu'il ne s'agit nullement d'art pour l'art.
Oui.
Une pareille conception, celle de l'art pour l'art, qui, d'ailleurs, étant donné la modernité, l'originalité, le caractère direct de l'art égyptien tel que nous l'avons, pourrait sembler, à première vue, être la conception d'anciens égyptiens. Ben, ce n'est pas ça du tout. Tout cet art est simplement à la disposition, c'est un instrument à la disposition d'une philosophie du monde, d'une philosophie cosmique. Il faut bien comprendre que pour les Égyptiens, ce qui les intéressait, ce n'était pas notre misérable existence terrestre. Pour les Égyptiens, le problème qui se posait était leur problème de leur insertion à eux, Égyptiens, dans le cosmos. Cette insertion dans le cosmos, c'est-à-dire le problème de l'origine du monde fondamental, le problème aussi très fondamental de l'origine de l'humanité, et, s'opposant à partir de là, aussi, le destin humain. Qu'est-ce que nous devenions après cette chose qui fait que, étant nés, bien, nous mourons. Ça, c'est un phénomène fondamental pour les anciens Égyptiens. Et par conséquent, pour eux, il s'agit de se situer par rapport à cette énorme machine dont ils ont bien le sentiment qu'elle est énorme, qui est l'univers. À travers cet univers, il y a naturellement deux acteurs très fondamentaux qui sont le soleil qui naît chaque matin, qui ensuite va culminer avec une force, une brutalité étonnante dans la chaleur du midi, et ensuite, le soir, disparaître à l'horizon. Il y avait des prêtres spéciaux sur chacun des temples égyptiens qui passaient toute la nuit pour guetter si au matin le soleil réapparaîtrait. C'est ce qu'on appelle les prêtres horaires. Mais voilà, pour les Égyptiens, quelque chose de fondamental comme interrogation. Et par conséquent, il y avait quelqu'un qui était chargé de faire l'intermédiaire entre ce monde des pauvres humains, soumis à ces lois fondamentales du cosmos, parmi lesquelles en particulier celui de la mort. Oui, je ne vous ai pas dit, le deuxième grand acteur, c'est le Nil.
Le Nil, vous alliez le dire, Nil, je pense. Donc c'est pour ça que je vous laissais.
Qui naturellement paraît, avec sa régularité,
avec les crues du
la
Nil.
Crue, chaque fois au milieu du mois de juillet, la crue arrivait. Et avec elle, ou l'abondance, ou la misère. Il fallait que la crue soit juste, il ne fallait pas qu'elle soit trop grosse, ni, on disait, une crue à arracher les bœufs, ni trop faible. Par conséquent, il y a une question de mesure. Cette question de mesure est assurée par une force qui s'appelle la Maat, la vérité-justice ou vérité-justesse, et c'est l'application de cette Maat dont est chargé le Pharaon, seul intercesseur entre le monde des hommes et le monde des dieux. Par conséquent, toute cette histoire de l'art égyptien se situe par rapport à Pharaon et par rapport à cette intégration cosmique.
Alors Jean Leclan, je vous propose de marquer une première pause musicale et de revenir dans quelques instants à la présentation de la publication nouvelle du Temps des Pyramides de la fameuse collection L'Univers des Formes. Nous retrouvons Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, qui vient nous présenter le Temps des Pyramides, publié aux éditions Gallimard dans la fameuse collection L'Univers des Formes. Il s'agit d'une nouvelle édition dont il a assuré la direction scientifique. Jean Leclan, nous parlions précédemment des critères de l'art égyptien. Au premier coup d'œil, une impression d'ordre domine l'art égyptien. Pourquoi ? Vous parlez dans votre préface de la vigoureuse géométrie de l'art égyptien. Quelle est cette particularité ?
Cette particularité, c'est effectivement la notion de rigueur. Les œuvres égyptiennes s'imposent à nous, elles sont telles qu'elles sont, ne peuvent pas être autrement. Elles ne peuvent pas être autrement, elles sont conçues dans un cadre d'une géométrie parfaite. Je prends la statuaire, les représentations des dieux et des hommes, éventuellement, elles se font toujours selon, en quelque sorte, la juxtaposition de plusieurs cubes. Un cube pour le socle, un cube si la statue est assise pour le siège et les jambes, un autre pour le tronc, et un autre dans lequel la tête vient s'insérer. D'ailleurs, les passages entre la tête et le corps sont marqués par la perruque. La perruque qui encadre rigoureusement la tête et qui vient s'intégrer parfaitement sur les épaules. Hein, le cou, c'est-à-dire cette limite du cou, n'est pas marquée. De même, les jambes ne sont jamais séparées. Les bras sont généralement collés le long du corps. Tout cela pour donner une impression de géométrie. Et par conséquent, pourquoi cette géométrie ? C'est parce que ces œuvres ont ainsi beaucoup plus de stabilité, elles sont destinées à durer pour l'éternité.
Oui.
Et par conséquent, elles doivent non pas se distinguer par un caractère fragile, par exemple. Alors pourquoi aussi cette rigueur ? C'est parce que les Égyptiens, grâce à tout cet univers de formes, vont s'intégrer dans un cosmos, mais un cosmos qui est conçu, lui aussi, avec la même rigueur. Cette rigueur, elle vous est imposée aussi par le paysage égyptien et aussi par la nature égyptienne. Le cycle des heures, du jour, de la nuit, sont particulièrement rigoureux. Le jour naît et meurt avec la même brutalité. Les saisons sont aussi rigoureuses, définies par la crue et ensuite par toute la vigueur de végétation qu'entraîne la présence de cette eau sans cesse renouvelée. Si vous regardez le paysage égyptien, et par conséquent, si vous voulez, la splendeur de la nuit, et avec la rigueur du mouvement stellaire, une chose fondamentale, cette chose fondamentale, elle s'impose au visiteur qui vient en Égypte. Le visiteur qui vient en Égypte est pris par ce cadre, par le cadre même de la vallée. Et la vallée, mais elle est parfaitement rectiligne, hein. Vous allez depuis le delta, vous remontez jusqu'à Assouan, il y a toujours le Nil dans sa rigueur, et il est bordé par deux rives, de chaque côté, par deux séries de hauteurs. D'un côté, le désert libyque, c'est-à-dire là aussi la rigueur du désert, hein, parce que c'est un désert absolu, avec de grandes dunes, des espaces de grandes plateformes rocailleuses, c'est rigoureux. Et de l'autre côté, les montagnes qui séparent la vallée proprement dite de la mer Rouge. Par conséquent, voyez-vous, un cadre physique qui vous est donné d'une manière parfaitement rigoureuse. Et par conséquent, toute la qualité de l'artiste égyptien a été de rendre cette rigueur et de l'imposer à notre vue, l'imposer aussi à la durée du temps, puisque tout ça est conçu pour subsister de la façon la plus
éternelle, qu'elle était conçue.
La plus rigoureuse.
Alors, dans les 5 chapitres que compose l'histoire, le chapitre écrit par Fernand Debonneau est consacré à la préhistoire. Et il y rend compte effectivement des techniques de taille de la pierre à la préhistoire. Et peut-on dire que ces techniques constituent un héritage pour l'art égyptien ? Est-ce qu'on peut dire, l'affirmer ?
Oui, il y a aussi une caractéristique, si vous voulez. L'art égyptien est essentiellement un art de la pierre.
Voilà, hein, c'est
fondamental. Les matériaux qui s'offraient aux Égyptiens étaient des matériaux durs, s'offrant particulièrement bien aux ciseaux de l'artiste, artiste ou artisan, car les Égyptiens ne distinguent pas entre artiste et artisan. Alors, c'est le travail de la pierre et des pierres dures, non seulement la taille, mais le polissage, etc. Tout ça a été obtenu et obtenu de très hautes époques.
Oui.
Par conséquent, ces points de vue techniques sont très très fondamentaux.
Voilà, Fernand Debonneau.
Et Debonneau, qui était un très bon préhistorien, Debonneau l'a bien marqué. Mais je crois qu'on peut aller plus loin que lui,
oui,
et expliquer que la situation de l'Égypte est une situation de la pierre, parce que ça va avoir des conséquences très importantes. La situation de la pierre, quand vous avez obtenu une bonne taille, ce que vous pouvez faire, c'est réaliser quelque chose qui soit aussi bien.
Oui.
Ce n'est pas comme l'art du métal. L'art du métal, au contraire, vous pouvez sans cesse avoir de meilleures cuissons, vous pouvez sans cesse avoir un meilleur travail du métal, et par conséquent, c'est tourné vers le progrès. Vous voyez que la nature même des présupposés métaphysiques, en quelque sorte, on peut réunir ça métaphysique, et les procédés de la technique sont intimement mêlés. Pour faire de l'art égyptien quelque chose d'essentiellement conservateur, alors qu'au contraire, avec le métal, vous êtes tourné vers le futur, vers le progrès. Le progrès égyptien, il n'y a pas de progrès vers le futur de l'Égypte ancienne. Tous les textes vous le disent sans cesse, il faut revenir aux origines, il faut revenir au temps du Dieu. Pourquoi revenir au temps du Dieu ? Parce que le Dieu a créé le monde et les dieux continuent, hein, je dis le Dieu ou les dieux parce que le panthéon foisonnant égyptien, en réalité, c'est simplement des formes d'apparition, des formes de réalisation, des formes de dénomination du principe divin. Il y a le principe divin fondamental qui est celui qui ordonne le monde. Et il ordonne le monde par l'intermédiaire de cette entité que l'on appelle la Ma'at, la vérité justice. Par conséquent, voyez-vous, tout cela, que ce soit technique et que ce soit au contraire philosophie, tout cela ne forme qu'un et tout cela est destiné à obtenir un monde qui doit se perpétuer. Et se perpétuant fait que la vie que nous connaissons n'est jamais qu'un des aspects de la création. Et par conséquent, pour les anciens Égyptiens, ils nient la mort en niant le temps. C'est quelque chose dans lequel, par le fait même que vous êtes lié à cette géométrie et à la permanence de cette géométrie, vous tuez la notion de temps, la notion de mouvement, la notion de progrès. Vous voyez la métamorphose que le visiteur d'une collection égyptienne doit s'imposer. Infini, toutes les présupposés qui sont les siens en entrant dans un musée d'art égyptien. Il doit désormais se conformer à cette rigueur totale du monde égyptien. Rigueur totale parce que elle a la prétention, et après tout c'est une prétention qui est assez grandiose, la prétention de l'éternel. À la fois pour le monde extérieur et à la fois pour le lui-même, car les textes y insistent sans cesse, notre monde terrestre, celui que nous connaissons, dans ce que nous appelons la vie, mais n'est qu'un petit aspect, et ce que répète à l'envie des textes continuellement, quand ils signent un nom, il y a derrière deux groupes qui signifient vivant à jamais, vivant éternellement. Voilà. La création égyptienne, elle est faite pour vivre à jamais. Et elle réussit.
Alors, Jean-Louis de Sénival, dans son chapitre sur la proto-histoire, fait remarquer qu'il y a également, à ce moment-là, entre 10 000 et 8 000 ans avant Jésus-Christ, on abandonne l'échelle précédente, il y a une première distinction entre les objets qui apparaissent. Il y a des objets usuels et puis des objets qu'on pourrait qualifier d'objets d'art. Alors, peut-on l'expliquer ? En tout cas, il y a de nouvelles formes qui apparaissent.
Oui.
À ce moment-là.
Je dois dire que nous avions donné, il y a une trentaine d'années, l'importance à la proto-histoire parce que Jean-Louis de Sénival venait de faire une très belle exposition au Grand Palais sur le quatrième millénaire avant notre ère, et cette exposition avait très bien marqué la mutation que constituait la naissance de la civilisation égyptienne vers 3100 avant notre ère, c'est-à-dire le Ménès, le pharaon mythique qui est aux origines de la civilisation égyptienne, et puis ensuite la création des grandes pyramides de Djoser à la troisième dynastie. Alors, et par conséquent, si vous voulez, on insistait sur cette proto-histoire, ça serait peut-être une chose à réécrire à l'heure actuelle, à ne pas séparer d'une façon si rigoureuse la préhistoire et la proto-histoire, mais à cette époque, Desbonneaux et Sénival constituaient deux personnalités très différentes l'une de l'autre, pour lesquelles il était heureux de donner le moyen d'expression. Et ce, je dois dire que c'est sans doute dans ces périodes anciennes que nous avons le plus à l'heure actuelle.
Progressé.
Le plus progressé, parce que nous comprenons mieux, si vous voulez, le rapport entre la civilisation égyptienne, pharaonique, disons pharaon. Pharaon, c'est 3100 à peu près avant notre ère. C'est une énorme mutation, puisque à la fois, il naît l'histoire, il naît en même temps l'écriture, hein, qui va permettre de porter les ordres au loin, c'est important, et aussi l'organisation de l'irrigation. Voilà, tous les faits qui correspondent à cette grande tournure. Mais c'est là-dessus qu'il y aurait beaucoup de choses nouvelles à apporter. Les fouilles, d'une part, les rupestres sahariens sont mieux connues. Il est évident que ces populations proviennent de populations sahariennes qui ont été chassées du Sahara par la dessiccation. Depuis 6000 avant notre ère, le monde se dessèche. C'est une des grandes pulsations climatiques du monde. Par conséquent, les populations quittent le Sahara, mais où elle s'était exprimée, mais ça nous le savions pas très bien il y a 30 ans. Il y a une civilisation des rupestres sahariens qui est très importante et qui va se retrouver. Ces rupestres sahariens, ce sont des gens qui sont des maîtres de l'art animalier. Les anciens Égyptiens sont des maîtres de l'art animalier. Et il y aurait beaucoup de détails que je pourrais vous rappeler, vous rapporter. Les instruments de puissance de Pharaon, mais ils sont déjà ceux du chef de chasse des tribus préhistoriques. Par conséquent, la composante saharienne, la situation égyptienne, ce qui pose alors le problème, de montrer que l'art égyptien est beaucoup plus à rapprocher des arts africains qu'à chercher du côté de l'Asie. Voilà, c'est des changements de perspective neuves. Et enfin, les fouilles des Allemands ont montré qu'il y a une dynastie zéro. Oui. Il y aurait presque une dynastie moins un.
Peut-être mille ans.
Trouvé déjà des traces de pharaons, c'est-à-dire le pharaon, c'est pour les Égyptiens Horus sur Terre. Eh bien, ces Horus, avec des noms d'Horus, c'est-à-dire des noms de pharaons, sont connus antérieurs à ceux que l'on connaissait. Par conséquent, là, il y aurait des pages nouvelles à écrire, voyez-vous. Je le dis carrément parce que ce livre, ben, j'espère avoir un grand succès, mais il faut dire aussi en quoi il est déjà dépassé. Mais vous savez, dans la recherche historique, et d'ailleurs dans tous les domaines, au moment même où je vous parle, ma pensée est déjà dépassée par ce que je pourrais vous dire demain ou dans un an.
Merci Monsieur Leclan, on va marquer une courte pause avant de vous retrouver dans quelques instants pour continuer à nous présenter cet ouvrage, Le Temps des Pyramides, publié par Gallimard dans la fameuse collection L'Univers des Formes pour sa nouvelle et dernière édition en 2006. Le Temps des Pyramides avait été publié en 1978, mais la collection avait commencé en 67.
Il faut dire alors un petit détail, c'est que les éditions Gallimard ont conçu cette nouvelle édition comme d'un usage plus large que ce qu'ils avaient pensé. Une trentaine d'années, L'Univers des Formes était vraiment un ouvrage de luxe et un ouvrage pour connaisseurs. Mmh. Il était pensé dans cette perspective-là. La nouvelle édition, elle, a la prétention de se rapprocher davantage d'un très large public. Naturellement, ça a une conséquence immédiate, c'est que les ouvrages sont beaucoup moins chers qu'ils l'étaient. Les procédés de réalisation actuels le permettent aussi, et par conséquent, on compte sur une large diffusion. Et le format a été changé aussi. C'est un format totalement neuf, plus petit,
plus léger,
etc. Voyez-vous, toutes sortes de gains qui
vont lui assurer un grand succès.
Voilà, qui donne à la collection un nouveau caractère.
On vous retrouve dans quelques instants.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Nous retrouvons Jean Leclan pour nous présenter Le Temps des Pyramides, publié aux éditions Gallimard dans la collection L'Univers des Formes pour sa dernière édition en 2006. Nous évoquions avec vous, Monsieur Leclan, l'éternité ou la conception du temps des Égyptiens et de la vie et de la mort au temps des pharaons. Alors, pour demeure éternelle, les Égyptiens ont développé justement toute une architecture funéraire que Jean-Philippe Lauer, en 1978, a développé dans un long chapitre du volume consacré à l'architecture. C'est un des plus longs du volume pour l'époque. L'architecture funéraire a d'abord été en briques crues avant d'être en pierre. Mais d'abord, comment la définir et quel était son rôle? On en a un petit peu parlé, vous l'avez quasiment dit tout à l'heure, mais...
Nous dites que le chapitre sur l'architecture de l'ouvrage est le plus considérable, le plus long, celui sur lequel l'attention est le plus attirée. Et effectivement, le titre même vous l'indique, hein, c'est le temps des pyramides. Les pyramides s'imposent, sont une des formes les plus absolues et qui correspondent bien à ce que nous disons, à cette vigueur et à cette rigueur de la géométrie, hein, C'est la forme géométrique la plus simple possible. Et quand on évoque l'art égyptien, bien, tout de suite, si vous voulez, le mot qui vient, c'est celui de la pyramide. Alors, comment la pyramide est-elle née? Premièrement, il n'y a pas naturellement que des pyramides en Égypte, il y a de nombreuses autres constructions, et la pyramide elle-même n'est qu'une partie d'un ensemble qui s'appelle le complexe funéraire. C'est qu'un des éléments de la sépulture d'un pharaon. À côté de ça, naturellement, il y a une architecture, disons, palatiale, une architecture civile, une architecture militaire. Tous ces braves Égyptiens se logeaient, se défendaient, avaient toutes sortes d'activités qui nécessitaient des formes architecturales autres que la pyramide. La pyramide n'est qu'une forme parmi d'autres, mais elle est tellement typique qu'elle sert en quelque sorte de signe dans la signalétique générale, de signe pour la civilisation, pour la culture égyptienne. Donc une forme extrêmement simple. On n'y est pas arrivé d'ailleurs du premier coup. Les Égyptiens ont naturellement au départ une architecture faite avec le limon du Nil, c'est
en
le
brique.
Matériau le plus simple, la brique, c'est-à-dire qu'on prend du limon, ce limon d'ailleurs en quelque sorte c'est du limon, si j'ose dire, armé, en sens que on met dedans de la paille hachée, on met aussi des excréments d'animaux parce que ceux-ci apportent justement avec eux de la paille et d'autres éléments que le limon lui-même. Et cette architecture de briques est d'ailleurs très difficile pour le fouilleur à mettre en évidence, puisque là on peut dire qu'on est limon et on retourne limon. C'est-à-dire qu'il est très difficile, à travers les millénaires, souvent de distinguer entre le limon d'apport récent et ce limon
reconstitué
en matériaux qui est celui de la brique. Par conséquent, une architecture de briques crue au départ, avec beaucoup d'éléments de bois. Alors les aimants de bois, quelle que soit la sécheresse du climat, les aimants de bois ont tendance à pourrir, à disparaître aussi naturellement, rongés par les termites, rongés par toutes sortes d'éléments de destruction. Mais naturellement, les éléments de bois tenaient une grande part pour constituer les poutres en particulier. Ensuite, il faut savoir que pour toute cette architecture, nous connaissons les sépultures des premières et deuxièmes dynasties, je prends les sépultures royales. Pour les sépultures des hommes, ça va être des mastabas,
oui.
C'est-à-dire des espèces de banquettes, en briques crues, qui continuent d'ailleurs en briques crues, mais naturellement aussi passent en pierre. Quant à l'usage de la pierre, alors c'est très intéressant, les sépultures des pharaons de la première et deuxième dynastie, les superstructures sont en briques crues. Et c'est une nouvelle mutation, le début de la troisième dynastie. C'est pour ça que l'étude de ces mutations est, d'un point de vue philosophique, extrêmement intéressant à considérer. La première, c'est les premiers pharaons, l'institution pharaonique fondamentale. Au début de la troisième dynastie, c'est un pharaon qui s'appelle Djoser. Ce Djoser a un architecte, Imhotep. Et cet Imhotep est tellement génial que cet Imhotep sera considéré comme un dieu à la basse époque. Les anciens Égyptiens ont bien eu conscience qu'il y a eu une rupture. Mais le coup d'essai de Djoser et Imhotep a été un coup de maître, puisque leur première réalisation, c'est-à-dire à Saqqara, ce qu'on appelle le complexe funéraire de Djoser, a 16 hectares. 16 hectares de briques. Mais attention, ce qui est très intéressant, c'est que cette architecture de pierre, 16 hectares d'architecture de pierre, mais cette architecture de pierre transpose une architecture de briques et de bois. C'est ça qui est très intéressant. Parce que cette architecture est constituée de petits éléments. Les blocs de Djoser sont de dimensions restreintes. Et naturellement, si vous voyez, comme de grandes briques. Mais son successeur va faire un coup extraordinaire. Il va multiplier les pierres par deux sur leurs dimensions. Alors à ce moment-là, alors que les premiers blocs étant multipliés par deux, atteignent des 50 cm sur 50 cm, c'est-à-dire qu'il reste encore portable, aisément maniable. Voyez-vous, c'est extrêmement intéressant, mais naturellement, il y a besoin de 8 fois moins de manipulation. Voilà comment se fait le progrès, le génie humain. Il reste, si vous voulez, il apporte des modifications, mais les thèmes fondamentaux restent les mêmes. Et par conséquent, cette architecture va avoir le thème suivant. Le roi va être inhumé sous la terre, naturellement, donc il y aura des galeries, hein, c'est creusé dans le sol. Mais la partie visible, le séméion, en quelque sorte le signe extérieur, c'est le mastaba pour les particuliers et la pyramide pour Pharaon. Alors, c'est Loher, Jean-Philippe Loher, qui est disparu tout récemment, il y a 3 oui. ans, et qui, à l'âge, à quelques jours près, il aurait eu 100 ans. Et il a eu la chance de rester sur son terrain jusqu'à l'âge de 98 ans. C'est-à-dire qu'à Saqqara, on ne sait pas si la pyramide est Djoser ou si la pyramide est Loher. Et d'ailleurs, on a créé un musée qui a la mémoire de... On l'appelle le musée Imhotep, parce que Loher se référait toujours à ce patron des architectes qui a été Imhotep, le premier architecte de Djoser. D'ailleurs, pour Djoser, c'était aussi son premier ministre. Voilà. Imhotep était à la fois l'architecte et le premier ministre.
De Djoser. Donc là, c'est la, vous venez d'évoquer la pyramide à degrés.
C'est la pyramide à degrés. Alors naturellement, Loher, qui a passé sa vie sur ce chantier, a montré qu'en réalité, il y avait d'abord eu un énorme mastaba, puis ce mastaba avait été agrandi, et finalement, on avait décidé de faire une sorte d'escalier géant pour monter vers le ciel. Ce sont les 6 degrés de la pyramide de Djoser, qui atteint 66 mètres de haut. Vous voyez, on est encore loin,
est très loin
des grandes pyramides des pharaons de la 4e dynastie, c'est-à-dire de Khéops, Khéphren et Mykérinos, Khéops et Khéphren dépassant les 140 mètres, ce qui est vraiment très haut.
Il y a une nouvelle évolution architecturale
à partir de Djoser. Les ouvrages fondamentaux de l'histoire d'architecture de Loher demeurent un modèle pour ses successeurs. Et j'ai eu le privilège, moi, de travailler pendant les 35 dernières années de Loher, à chaque campagne, de travailler avec lui à Saqqara. Et naturellement, j'ai pu profiter, durant les longues soirées passées côte à côte dans le froid de la nuit égyptienne, car il fait froid l'hiver en Égypte, et sans guère de chauffage, sans éclairage, etc., dans des conditions très spartiates que petit à petit j'ai d'ailleurs accommodé, car Loher, lui, ne prêtait guère attention à tous ses problèmes pratiques. Et avec lui, par conséquent, j'ai naturellement beaucoup appris, ils ont beaucoup travaillé ensemble sur cette époque des pyramides. Il est normal que la partie centrale de l'ouvrage demeure cette étude fondamentale de Loher sur l'architecture. Et il y aurait là Audran Labrousse, qui est l'architecte qui a succédé à Loher à Saqqara. Audran Labrousse apporte beaucoup de choses nouvelles, mais enfin les choses fondamentales ont été exprimées par Loher, et en particulier dans ce chapitre de l'univers des formes.
Alors, de quand date l'introduction de décors, de bas-reliefs dans les pyramides, même ?
Écoutez, il faut un support, et dans cette architecture de pierre va donner ce support. Il n'y a pas de relief dans Djoser. C'est seulement petit à petit que dans les mastabas tout autour sont apparus des reliefs. Et là, comme vous le savez, les anciens égyptiens ont apporté énormément. Bas-relief peint d'ailleurs. Naturellement, à l'heure actuelle, les peintures n'ont au moins tenu le coup que les reliefs eux-mêmes. Quant aux reliefs, ils sont admirables, car qu'est-ce qu'ils dépeignent ? Ils nous dépeignent la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Pourquoi la vie quotidienne ? C'est parce que ces Égyptiens qui veulent l'éternité, pour l'imaginer cette éternité, ils prennent la vie quotidienne qu'ils ont connue. Le fondement de la vie égyptienne, c'est pas du tout un art de croque-mort, c'est pas du tout un art funéraire, c'est un art qui est plein de vie. Car les Égyptiens répétaient, mais dans toutes leurs formules, « fais un jour heureux ». Par conséquent, sur la terre, ils espéraient qu'ils auraient une vie aussi confortable, et pour le plus grand nombre possible, mais ça ne les intéressait pas beaucoup. Ceux qui ont les mastabas, c'était les puissants du jour. Et ces puissants du jour estimaient qu'ils auraient une bonne abondance de revenus de leurs champs, que les champs seraient bien labourés, qu'ils produiraient beaucoup de bons grains, qu'ils produiraient des volailles, qu'on continuerait à aller à la chasse et qu'il y aurait un gibier sur les tables d'offrandes qui leur seront consacrées aux dieux, qu'il y aura aussi des pêches fantastiques, etc. Tout c'est bien de la terre et naturellement, tout ce qui accompagne une vie heureuse, des festins, des fêtes, des danses, naturellement, éventuellement, des cortèges en l'honneur des dieux, mais aussi de toutes sortes de choses agréables pour remplir ce merveilleux programme, sans cesse répété, de faire un jour heureux.
Alors, on va vous retrouver dans quelques instants pour nous parler de ces arts du bas-relief et de la peinture au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ, qui justement était une façon pour les Égyptiens de
réaliser pour la postérité ce qu'ils avaient connu de mieux dans la vie d'ici-bas.
Merci, Monsieur Leclan. Jean Leclan, vous venez précédemment d'évoquer l'art égyptien du bas-relief et de la peinture. Est-ce que l'objectif des Égyptiens était d'abord de réaliser une ressemblance parfaite de leur sujet ou de la nature? Ou justement
écoutez,
non.
Ils visaient à la ressemblance, c'était quelque chose de fondamental, puisque c'était ce qui allait donner aux formes qu'ils exprimaient son éternité. Mais par la préoccupation même d'éternité, si vous voulez, ils avaient nécessité de faire de belles choses. Ils étaient naturellement un personnage, voulaient passer, que ce soit un homme, que ce soit une femme, voulaient passer à l'éternité sous ce qu'il avait de meilleur. Et en quelque sorte, dans un âge idéal.
Oui,
très souvent, c'est très difficile.
Meilleur âge de la vie.
On va dire, mais ils sont pris dans la force de l'âge, plus exactement, dans la force de la vigueur. Ils sont généralement très rajeunis. C'est très rare qu'il y ait des représentations de personnes âgées. En tout cas, on ne les met pas dans la décrépitude qui pouvait être celle de l'extrême vieillesse. Ils sont donc, en quelque sorte, idéalisés. C'est pour cela que, quelquefois, certains disent, mais c'est très curieux, c'est un art qui, à première vue, semble totalement animé par le vérisme, et pourtant il est idéalisé. Ce sont les deux choses à la fois, c'est-à-dire que la préoccupation est celle de permettre à ces formes de vivre éternellement. Alors c'est là, si vous voulez, ce que nous appelons, nous, souvent la magie. La magie, ça consiste simplement à faire, elle est opératoire, c'est une magie qui fait que ces différentes formes vont être voué à l'éternité, naturellement, on va aussi essayer de faire que le temps ait le moins de prise sur elle. Dans la statuaire, ce sont les formes les plus simples qui ont le plus de chance de parvenir à l'éternité. Dans l'art du relief, c'est aussi, par définition même, une figure posée. C'est certes un instantané, mais c'est un instantané qui, en même temps, est avec une pause. Parce que, toujours, il faut se référer à la volonté qui a été celle des anciens Égyptiens dans la création de leur art. Par conséquent, pas un art pour l'art, absolument pas, mais d'un autre côté, un art qui est totalement tourné vers l'affirmation de l'éternité des formes qu'elles représentent.
Alors, ces bas-reliefs étaient peints, il y avait aussi des peintures qui, par leur fragilité, nous sont moins bien parvenus que les bas-reliefs. Il y a eu des techniques de peinture très évoluées.
Généralement, si vous voulez, les peintures, c'est quand elles sont simplement peintes, c'est l'art du pauvre. C'est parce que la roche ne se prêtait pas. C'était une marne, par exemple, sur laquelle il fallait mettre un crépi.
D'accord.
Et ensuite, sur ce crépi, on ne sculptait pas, mais on peignait seulement. En réalité, la forme d'expression, c'est
dominante et la dominante, reconnue.
C'est un bas-relief peint.
D'accord,
c'est ça.
C'est les deux.
Si vous voulez, bas-relief peint. Il n'y a pas de peinture telle que nous la concevons nous-mêmes, séparée de l'art du relief. C'est le bas-relief peint qui est la forme majeure et la forme voulue, la forme d'excellence de la représentation de l'art égyptien, dans laquelle d'ailleurs alors le vérisme se montre en particulier dans les représentations d'animaux, hein. Les oies par exemple,
les
oies vivent devant vous, les scènes de chasse, il y a dans l'ouvrage de magnifiques représentations de scènes de chasse, dans lesquelles alors, lorsqu'ils veulent montrer un mouvement, une gazelle au galop par exemple, ils peuvent vous la montrer au galop, mais ce galop il est fixé, parce que on prend un temps dans le galop, on vous rend l'effort de la bête, la puissance de la bête, la vigueur du galop. Mais toc, il doit être pris dans ce qu'il y a de mieux. Les pattes deux pattes de la gazelle, les deux pattes avant et deux pattes arrière sont ensemble. Si vous voulez, ramasser la force de l'image.
Les artistes ne représentaient pas ce qu'ils voyaient, mais ce qui était pour eux.
L'essence même. De tout ce que nous avons dit sur ce qui était la volonté de l'art, nous appelons ça art, mais nous l'avons vu, ça dépasse la notion même d'art. La volonté était celle de ramasser le plus possible de force, de vigueur, de façon à ce que ce soit un monde fort, qu'il soit représenté, hein, les scènes de faiblesse, ce n'est pas ce qui intéresse les Égyptiens.
Parmi les arts égyptiens, la statuaire est une des gloires majeures de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Quel rapport les Égyptiens de l'Antiquité entretenaient-ils justement avec les statues? Parce que là, il y a foison d'œuvres.
Ces statues sont présentes. Hein,
oui, seulement pour les pharaons, y compris pour... Les dignitaires,
naturellement. Quelquefois, d'ailleurs, ce sont des personnes beaucoup plus simples. Hein, mm-hmm. Les serviteurs sont représentés et on y attache la même importance. Si vous voulez, si je prends par exemple le groupe de Rahotep et de Néfret, qui sont des personnages du début de la 4e dynastie, bien, ils apparaissent devant nous, sont grands personnages et appartiennent à la famille royale. Ces personnages apparaissent avec... une extraordinaire présence, hein, où le chef de village, le fameux Cheikh El Beled, lorsque le Cheikh El Beled, cette statue de bois, qui représente un personnage un peu bedonnant, avec une statue en bois, tenant son bâton de puissance et les yeux soulignés par l'éclat de la pierre blanche, les fellahs sont enfuis, tellement le personnage avait de présence, reprenait de vigueur en réapparaissant au jour.
Jacques Vandier a distingué dans les études qu'il a faites sur la statuaire égyptienne plus de 120 attitudes différentes pour justement cette statuaire de pierre. Et pourtant, je dirais que nous, simples amateurs, on a en tête quelques attitudes, alors qu'il y a en fait une très grande variété, une grande richesse des attitudes représentées qu'on ignore tout simplement. Et justement, l'ouvrage de l'univers des formes restitue quand même toute cette variété.
Nous avons cherché la variété, voilà. Hein, sinon, sinon ça aurait été monotone. Hein,
les pièces très connues, comme la statue en diorite du pharaon Chéfren, qui est connue, mais aussi des statues cubes, on y voit aussi des statues de bois, des sculptures de bois.
Oui, c'est une question de conservation aussi. C'est évident que les statues de pierre ont subsisté beaucoup plus, mais que très vraisemblablement, là, il y a une question de rendement et de prix, de coût. Il y avait sûrement beaucoup plus de statues de bois qu'il y avait de statues de pierre, c'est évident.
Alors, pour le dernier chapitre de cet ouvrage est consacré aux arts appliqués et a été écrit par Christiane de Roche-Noblecourt, qui explique que, justement, ces arts appliqués ont constitué un espace de liberté de création un peu plus grand que les autres arts de l'Égypte ancienne, même si le cadre en est quand même très défini,
très strictement défini.
On trouve effectivement, là encore, une grande variété de formes, mais les artisans, les orfèvres, les ébénistes ont fait preuve de créativité certaine.
Si vous voulez, il ne faut pas s'y tromper, la créativité des Égyptiens était total, mais simplement, ils se bornaient pour réaliser les programmes qui étaient les leurs, c'est-à-dire obtenir des œuvres pour l'éternité. Ils étaient naturellement plus restreints, mais on le voit très bien, là, lorsqu'ils veulent vraiment créer un mouvement, ils vous le suggèrent avec toute la puissance voulue. Mais généralement, effectivement, ils vont dans cette dynamique, choisir des moments forts de façon à s'imposer à vous et à donner à leur représentation plus d'éternité possible.
Alors, parmi les métaux précieux, l'or a été...
Oh ben, oui, l'Égypte a été servie. D'ailleurs, l'argent était plus rare et plus précieux encore que l'or. Mais enfin, ils savaient que l'or, c'est le métal de l'éternité par excellence. Par conséquent, vous voyez, nous retrouvons dans l'affirmation même du matériau, de même pour la pierre dure, le granit, ou ce que les archéologues appellent diorite, c'est-à-dire toute une série de roches que l'on trouve dans le désert oriental ou dans la région des cataractes à Assouan. Tous ces matériaux ont été les matériaux de dilection parce qu'ils avaient cette dureté dont on savait qu'ils avaient naturellement davantage de chances de traverser les siècles. Quant à l'or, bien l'or est un métal inaltérable. Mm-hmm. Par conséquent, là aussi, dans la matière même, on trouve les mêmes recherches que dans les formes proprement dites. C'est-à-dire que ces formes trouvent leur moyen d'expression parfait dans les matériaux qui sont employés.
Pour conclure, Jean Leclan, je rappellerai que dans cette préface et dans le prologue de cette seconde édition que vous avez écrite, vous avez justement resitué les dernières découvertes d'ensemble concernant l'Égypte pharaonique. Dans le prologue, on a également une sorte de longue introduction à la fois à la civilisation de Pharaon, mais aussi... Vous retracez l'historique de tous les égyptologues qui ont foulé l'Égypte, en rendant hommage à toutes les équipes d'ailleurs internationales qui participent à la découverte et à l'explication de cette civilisation dont on ne peut pas dire qu'elle est disparue, puisqu'elle est encore vivante, ne serait-ce que par l'intérêt qu'elle suscite. Et puis, je voudrais aussi dire que l'outil bibliographique est complètement renouvelé, les cartes également. Et puis, dans l'actualité de la maison d'édition Gallimard, il n'y a pas que le temps des pyramides qui paraît en cet automne 2006, mais effectivement, le volume La Préhistoire de Denis Vialou et celui consacré à Sumer par André Parot a également fait l'objet de cette seconde publication et est sorti en même temps que le temps des pyramides. Donc, c'était trois volumes fondamentaux.
Sumer d'André Parot, parce que Parot a joué un très grand rôle dans la collection. Malraux, naturellement, était pris par toutes sortes d'autres tâches. André Parot était chargé à ce moment-là d'abord de la direction du département des antiquités mésopotamiennes, mais aussi il était directeur général du musée du Louvre et était un des grands archéologues de son époque. Et les deux volumes qu'il a consacrés à Sumer et à Assur, ce sera le volume qui paraîtra l'année prochaine, ces deux volumes qui concernent la Mésopotamie étaient des réalisations techniques du temps de Parot tout à fait exceptionnelles. Par conséquent, nous conservons le caractère exceptionnel aussi de cette présentation et de cette réalisation, et c'était un juste hommage à la mémoire d'André Parot que de lui donner la priorité de la réapparition. Enfin, le volume de Vialou sur la préhistoire, aussi, si vous voulez, c'était bon de commencer la collection par le début, c'est-à-dire par la préhistoire. Ensuite, le plan de publication devra suivre un peu la chronologie, et aussi, si vous voulez, donner chaque année, la publication est prévue de 3 volumes par an, chaque année une variété, par conséquent, conviendra pour l'art grec aussi de s'y intéresser, et à d'autres formes d'art, puisque la collection a compris des volumes sur des civilisations rares comme les Scythes, etc. Par conséquent, il s'agira, dans le plan éditorial des années prochaines, de conserver la même variété qui a fait le succès de cette collection, en quelque sorte, collection un peu mythique de l'univers des formes. En tout cas, si vous voulez, l'Égypte aussi s'imposait, puisque par définition même, si vous voulez, elle a réussi à s'exprimer par la forme. Et ça, c'est une façon beaucoup plus que par les textes. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose d'original. Et dans l'art moderne, et dans notre civilisation à nous, on y est revenu. Songez à toutes ces recherches que nous avons sur l'architecture ou sur la sculpture et dans lesquelles, finalement, on essaie sans cesse de s'exprimer par les formes. Parce que les formes, c'est la façon concrète, si vous voulez, pour nous, d'exprimer les concepts mêmes qui sont à la base de notre civilisation.
Jean-Luc Lange, je vous remercie pour cette présentation de la nouvelle publication du Temps des Pyramides dont vous avez assuré la direction scientifique.